Bonsoir à tous. 60 minutes, votre rendez-vous d'infos et décryptage, comme chaque soir. Ravi de vous retrouver. Ce sont des malades. Ils devraient hisser le drapeau blanc. C'est Donald Trump qui parle ainsi et il parle une nouvelle fois aux dirigeants iraniens. Sur le terrain, justement, l'Iran poursuit ses frappes contre les Émirats arabes unis. Nouvelle salve de missiles, nouvelle salve de drones également aujourd'hui. Et dans le détroit d'Ormuz, situation toujours explosive. Les bateaux passent au compte-gouttes seulement. On sera sur place, évidemment, dans quelques instants. En France, l'autre titre ce soir, c'est le coup de pression du patron de Total Energy, Patrick Pouyanné. Il prévient, si on taxe les bénéfices de son groupe, il mettra fin au plafonnement des prix des carburants. Les Français face au choc pétrolier, on en parlera à 19h30 avec l'invité de 60 minutes, le député du Rassemblement National, Jean-Philippe Tanguy. Avant cela donc, l'événement du jour, les mots de Donald Trump, les missiles de l'Iran, image signée Stéphanie Zenati et Simon Terrassier.
Les yeux sont toujours rivés sur le détroit d'Ormuz.
La bataille navale qui a repris.
Deux navires ont pu avancer ces dernières heures.
Ça reste très lent, mais il y a du mouvement. Ce bateau qui s'appelle Alliance Fairfax a réussi à traverser le détroit d'Ormuz sous escorte américaine.
Furthest to be a peaceful operation, but are locked and loaded to defend our people, our ships, our aircraft.
L'Iran et les États-Unis se jaugent par menaces et tirs interposés.
These are sick people, and we're not going to let lunatics have a nuclear weapon.
On voit que l'Iran a clairement les Émirats dans le viseur.
La défense anti-aérienne qui est actuellement en train d'intercepter des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones qui ont été envoyés par l'Iran.
La question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que Donald Trump reprenne les hostilités ?
Soit M. Trump décide d'aller vraiment plus loin, y compris en employant des forces terrestres, soit on va vivre dans cette incertitude pendant des mois.
Voilà donc pour les images du jour. Jusqu'où Donald Trump va-t-il tolérer la reprise des hostilités de l'Iran ? C'est la question du jour. Pour y répondre ce soir, bien sûr, les experts de BFM TV, j'ai nommé dans l'ordre d'apparition Ulysse Gosset, Didier François et Elsa Vidal. Ravi de vous retrouver ce soir encore pour expliquer cette situation. J'ai le plaisir d'accueillir également l'amiral Alain Oudot de Dainville. Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Vous êtes ancien chef d'état-major de la Marine nationale. À vos côtés, général Philippe Sidos. Bonsoir, général.
Bonsoir.
Ancien chef du bureau de liaison de la FINUL. Et à vos côtés, Laure Palès, bonsoir madame, directrice associée de Mascaret et spécialiste de la politique américaine. On va en parler de la politique américaine et de Donald Trump tout à l'heure, notamment sur la fortune de Donald Trump qui a gagné des milliards de dollars supplémentaires depuis qu'il a remis les pieds à la Maison-Blanche. D'abord, on va retourner évidemment sur le terrain, dans le Golfe Persique, avec notre envoyé spécial dans la région. C'est Laura Cambeau qui nous attend au Qatar, à Doha. L'information, l'une des informations en tout cas de cette journée, Laura, c'est que pour le deuxième jour consécutif, l'Iran a frappé les Émirats arabes unis.
Oui, et c'est le ministre de la Défense émirati qui l'a dit sur son réseau social X dans un post qui a été publié il y a 2 heures. Il a affirmé que la défense antiaérienne des Émirats était en train de lutter, d'intercepter des missiles de croisière, des missiles balistiques et également des drones envoyés par l'Iran. C'est donc le deuxième jour d'affilée que Téhéran vise les Émirats arabes unis. Et puis hier, il y a eu 15 missiles qui ont été interceptés, 4 drones et puis il y a un de ces drones qui a réussi à passer, qui a touché le site pétrolier de Fujairah à l'est des Émirats Arabes Unis. Il y a eu un incendie, les Émirats qui sont donc de nouveau touchés. On vous rappelle que déjà entre le début de la guerre et le cessez-le-feu à la mi-avril, c'était le pays du Golfe qui avait été le plus visé par Téhéran. Alors comment réagit Abu Dhabi ? Pour l'instant, et bien toujours sur la retenue, il n'y a pas de réponse militaire. Abu Dhabi qui discute avec ses partenaires du Golfe, notamment le Qatar, où nous nous trouvons avec Mathieu Lepeynier. Abu Dhabi qui discute évidemment avec Washington. Mais voilà, je vous le disais, il n'y a pas de réponse militaire. Les Émirats veulent à tout prix éviter un embrasement régional.
Voilà, pas de réplique des Émirats. Merci beaucoup, Laura Cambeau, avec Mathieu Lepeynier. Pourquoi L'Iran s'en prend aux Émirats arabes unis et uniquement pour l'instant aux Émirats arabes unis.
Alors d'abord, les Émirats arabes unis sont dans le collimateur de l'Iran depuis le début de la guerre, puisque ce sont eux qui, y compris, ont pris le plus de missiles et de drones de la part de l'Iran, oui. Plus même qu'Israël.
Pourquoi ?
C'est 60%. Alors pour deux choses. D'abord, les Émiratis et les Iraniens se détestent. Les Émiratis sont dans une alliance stratégique très proche des Israéliens, puisqu'ils ont signé les accords d'Abraham. Les Israéliens ont déployé aux Émirats Arabes Unis des défenses antiaériennes. Les Émirats Arabes Unis sont sortis de l'OPEP pour ne pas continuer. Et il y a même une tension entre l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, pour justement, parce que les Émirats Arabes Unis sont sur une ligne de tension assez forte avec l'Iran, plutôt sur une ligne éradicatrice, et de ne pas laisser le régime iranien sortir et indemne et fort de cette crise. Il n'est pas certain qu'il n'ait pas riposté.
Ah bon ?
On peut le dire, on a toute la journée eu des témoignages de tirs autour de Bandar Abbas et d'un certain nombre d'îles et de stations de pétrolifères iraniennes.
Il est possible qu'il y ait une guerre à l'heure où on se parle.
Il est très possible.
Larvée, mais une guerre quand même entre l'Iran et les Émirats.
Je vous avais dit, attention, les Émiratis, ils ont les moyens de frapper, ils savent le faire, ils ont les capacités. Et si les Iraniens, parce que les Iraniens ne veulent pas dire non plus qu'ils ont frappé les Émiratis, puisque hier ils ont fait une déclaration après avoir frappé.
Officiellement, personne ne frappe personne depuis hier.
Personne, mais il se trouve qu'il y a de fortes possibilités. Elles n'ont pas été du tout confirmées par les Émiratis aujourd'hui, mais il y a eu des frappes qui ont eu lieu visiblement. De toute évidence, les Émiratis étaient capables. Ils ont quand même 60 Mirage 2000 Trianeuf qui savent très bien l'utiliser. On a fait des opérations avec eux. Ils ont été formés par les Français et on a fait des opérations avec eux en Libye et ailleurs où ils ont montré leur capacité de planifier les opérations, y compris par exemple au Yémen, des opérations de frappe. Ils sont parfaitement capables de le faire. Ils peuvent en plus avoir des aides, et particulièrement les aides des Israéliens en termes de renseignement, voire des Américains. Et je pense qu'il y a peut-être eu c'est une hypothèse sur laquelle on travaille. Je ne peux pas vous l'affirmer aujourd'hui. Mais on ne peut pas totalement exclure
qu'aujourd'hui,
il n'est pas frappé à Bandar Abbas. On a entendu deux fois deux explosions sur deux raffineries et trois explosions sur un terminal qui était dans un laps de temps qui ressemble quand même à une planification et qui ne peuvent pas être une série d'accidents. Donc, il n'y a pas de confirmation. Donc, c'est un peu la réponse du berger à la bergère. Personne ne revendique rien, mais les Émiratis ont parfaitement les capacités d'aller taper les Iraniens s'ils le veulent, sans mettre en cause le cessez-le-feu, puisque ce ne sera pas les Américains qui
vont. Oui, alors, amiral, hier, il y a eu des escarmouches, et même un peu plus que ça, dans le détroit d'Ormuz. Il y a eu un bâtiment, une habitation à Oman qui a été bombardée également par l'Iran. Il y a eu des frappes déjà hier iraniennes contre les Émirats arabes unis. Est-ce que tout ça est sous contrôle de l'Iran, qui frappe minutieusement pour éviter une reprise des hostilités et de se prendre une vague de missiles américains, ou est-ce que tout ça peut encore monter crescendo?
Ça a l'air maîtrisé, effectivement, parce que ce ne sont pas des frappes massives. Et puis, c'est ciblé sur un seul pays, effectivement, sur les Émirats Arabes Unis. Alors, ils attendent peut-être la réaction des Émirats Arabes Unis, des raids d'avions, des raids de Mirage, coordonnés, bien évidemment, avec les États-Unis. Mais effectivement, bon, là, comme l'a bien expliqué Didier, c'est l'ennemi, hein, c'est l'ennemi intime auquel on s'en prend.
Pardonnez-moi la question impertinente, ils se font plaisir? C'est-à-dire, plutôt que d'attaquer toute la région,
dans la tête de l'état-major,
ils se disent on va attaquer le grand méchant loup local plutôt que de s'en prendre aux Américains.
Exactement. Ouais. Ils se font un petit peu plaisir. Ils vont titiller effectivement un adversaire qui a des moyens de riposte, c'est vrai, qui a une base française, qui a des accords avec les Français. Oui. Ça, c'est important également à citer. Donc, ce sont nos amis, tout simplement. Il ne faut pas être dupe de cette affaire-là. Donc, il faut se sentir un petit peu concerné par ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis.
On a un accord
c'est
de
une
défense.
Réalité.
Avec
on a quand même un accord de défense. On a quand même des rafales qui sont sur place.
Des rafales. Je voulais vous montrer les images. Ces images, elles ont été publiées. On a eu l'occasion d'en parler ici même il y a quelques jours. C'est rafales, j'allais dire mirage, moi, si je me trompe entre les deux.
Les mirages.
Qui interceptent des drones dans le Golfe. D'abord, est-ce que c'est compliqué d'intercepter des drones? Et ensuite, est-ce que c'est vraiment utile d'envoyer des avions pour chasser des drones?
Alors, attendez, moi j'étais pilote de chasse.
Allez-y.
Bien qu'étant marin, j'étais pilote de porte-avions et j'ai fait ces trucs-là.
Vous avez chassé des drones?
Non, j'ai pas chassé des drones, mais c'était parce qu'à l'époque il n'y avait pas de drones.
Bon, c'est une bonne raison.
Mais si vous voulez, la défense aérienne, c'est un tout. Or, tout le monde sait, enfin, on annonce que Israël a déployé une batterie, une dôme de fer. Et si on met des avions par-dessus, on risque des interférences. Ce qui s'est passé au Koweït au tout début, où deux ou trois F-15 ont été descendus par le Koweït. Donc là, il y a quelque chose à organiser. Je ne suis pas certain que les Rafales puissent intervenir si le dôme de fer est en alerte.
Donc ce que vous voulez dire, c'est que les images qu'on a vues il y a quelques jours, c'est peut-être plus le cas. Il n'y a plus aujourd'hui la France qui aide les Émirats arabes unis.
On aide les Émirats arabes unis. Néanmoins, les rafales, effectivement, ne sont pas intervenues depuis le cessez-le-feu.
Voilà, donc là, en ce moment, l'armée française n'aide plus.
Si, elle aide.
Mais
elle
pas comme ça.
Alors, deux choses. D'abord, comme on le disait, les Mirages sont les rafales sont intervenus. D'abord, parce que c'était les premiers qui étaient là. Et ils sont intervenus en urgence. En défense immédiate, et on était les premiers à le faire, et à le faire très bien. Il y a quand même plus de 80 drones qui ont été abattus. Néanmoins, tirer du drone au Mika, ça coûte cher, le Mika étant le missile RR qu'utilisent nos rafales, puisque le Mika, il est à plusieurs centaines de milliers d'euros, et que le drone, il est à plusieurs dizaines de milliers d'euros, donc il y a un delta qui est... Donc on l'a fait pour protéger des vies et des infrastructures. Néanmoins, on a adapté le dispositif en déployant ensuite des hélicoptères, qui sont entre autres des Tigres, mais pas que, qui sont capables, là pour le coup, de tirer de la roquette ou du canon de 30, ouais. Ce qui permet de faire des interceptions moins chères. On a déployé de la défense anti-aérienne courte portée, des Mistral, pour pas les citer, avec un régiment d'artillerie parachutiste. Donc on a toute une série de... Moi, je suis allé les voir, et on a rencontré les pilotes. Ils font tout ce travail-là. Donc les pilotes, en ce moment, n'interviennent plus dans le cadre du cessez-le-feu. Mais en revanche, ils sont toujours présents et seraient capables d'intervenir s'il y avait une attaque sur leur position. Et par ailleurs, le reste du dispositif qu'on a mis en place en défense anti-aérienne solaire a été renforcé, y compris par des hélicoptères et des missiles. Et là, ça fonctionne.
Elsa Vidal, il y a quelques instants, Didier François nous disait qu'il est possible que les Émiratis aient déjà répliqué aux frappes iraniennes. Si c'est le cas, est-ce que tout ça reste dans un cadre parfaitement maîtrisé où on s'envoie quelques missiles, mais pas trop, pour ne pas rallumer toute la mèche?
La réaction des autorités iraniennes permettra de nous éclairer sur leur état d'esprit. Je voulais rajouter un élément, c'est que c'est aux Émirats Arabes Unis que pour la première fois, Israël a déployé à l'étranger son dôme de fer, tout en envoyant bien sûr aussi des soldats pour l'activer. Et c'est quelque chose d'assez mémorable, parce que une technologie israélienne de défense et des soldats israéliens dans un pays du Golfe, c'est une percée.
L'Iran aura réussi ça.
C'est une première. Alors, il faut s'arrêter un instant, parce que les Émirats arabes unis, jusque-là, ils avaient... Justement, parce que Trump avait échoué à faire céder l'Iran en 2019, ils avaient décidé d'avoir une politique étrangère équilibrée entre l'Iran et Israël, parce qu'ils craignaient la déstabilisation de la région. Là, visiblement, on a passé ce seuil, et effectivement, il va falloir attendre la réaction des Iraniens pour savoir si chacun veut maîtriser la montée en tension, ou si au contraire, tout dérape.
Amiral.
Oui, ils ont réussi autre chose. Ils ont réussi à réconcilier les meilleurs amis qui étaient devenus les meilleurs ennemis, c'est-à-dire le prince héritier d'Arabie Saoudite et le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis, qui, depuis ces attaques toutes récentes, ont retrouvé une certaine cohésion. Ce qui, pour la péninsule, c'est quelque chose de très positif.
Tout ça veut quand même dire qu'il reste quelques drones, quelques missiles aujourd'hui en Iran, et que quand les États-Unis disent on a à peu près tout détruit, il reste suffisamment, en tout cas, pour pourrir la vie des habitants du Golfe.
Il semblerait, oui, en tout cas, oui. C'est évident qu'ils ont plein de stocks. Ils sont peut-être même encore approvisionnés. Hier, on parlait d'approvisionnement potentiel, attention, qui viendrait du Tadjikistan, vous vous rendez compte, ça fait loin, avec un convoi d'une centaine de camions.
Le Tadjikistan vient faire
là-dedans. Parce que le Tadjikistan a une usine de fabrication de drones.
Je l'avais pas, celle-là.
Depuis 2022,
Ça paraît extraordinaire.
Oui.
Donc c'est quand même sidérant, cette affaire-là.
Ils ont
un pays personophone, mais le lien était assez distant. Donc il y a ça. Bon, il y a les usines iraniennes et puis il y a le stock iranien. Le stock iranien, et dont on ne connaît pas réellement le volume. A priori, globalement, 50%.
Dans la série, les vidéos humoristiques ou pseudo-humoristiques publiées par l'Iran et tous ses amis au travers le monde, voici la dernière qui se moque justement des Émiratis. Regardez, c'est toujours en mode Lego, on commence à en prendre l'habitude maintenant. Israel is my friend and Iran will learn a lesson. We take revenge and Iran needs to wait our response. Thank you. Et là, je me tourne vers notre spécialiste politique internationale et désormais l'ego, c'est vous, Élise Gossette. Cette vidéo, elle dit quoi ?
Ben, la première phrase dit tout. Israël est notre ami. Et dans la vidéo, on voit qui ? On voit Donald Trump et Benjamin Netanyahu. Jusqu'à présent, les Iraniens s'en prenaient à Trump uniquement. Et là, il y a un nouvel ennemi, entre guillemets, d'où les frappes auxquelles on a assisté hier et d'où la riposte qui pourrait venir des Émirats, comme le dit la rumeur aujourd'hui, bien orchestrée. Est-ce qu'il y aura effectivement une réplique ? Ça fait des semaines hein, que les Émiratis réfléchissent à une riposte ou pas. Alors, il y a eu une petite riposte, mais enfin, elle a été discrète. Là, on voit bien qu'il y a un nouveau bouc émissaire, très clairement identifié. Il est sur les vidéos. Jusqu'où ça peut aller ? Moi, je vois quand même aussi une chose, c'est que les Émiratis ont quitté l'OPEP.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
Or, si vous voulez, c'est vrai qu'il y a eu, au début de la guerre, un rapprochement entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Mais là, le fait de quitter l'OPEP, c'est un coup dur pour l'OPEP et pour surtout pour l'Arabie Saoudite. Donc les Émiratis sont en train de jouer une carte autonome, si j'ose dire, vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, mais aussi sur les prix du marché pétrolier. Ouais. Donc si vous voulez, ça a des conséquences très importantes. Et c'est vrai que Israël est en première loge à nouveau. Alors est-ce que, moi je trouve que la question essentielle ce soir, c'est est-ce que Trump va laisser les Émiratis, avec ou sans Israël, frapper
ce qu'on va faire
l'Iran ?
Ben, on va aller justement aux États-Unis retrouver Laurent Saïm qui est avec nous à Washington. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Guerre, Pete Hegseth, qui a pris la parole, Laurence, pour dire que les États-Unis menacent de reprendre la guerre. Le Pentagone promet une réponse dévastatrice, ce sont les mots de Pete Hegseth, si l'Iran attaque ses navires.
Oui, et en même temps, Pete Hegseth, il manie deux discours. Alors, il dit, évidemment, si l'Iran nous cherche, ils vont nous trouver, on est les plus forts, on les tapera de manière très forte. Mais en même temps, quelques minutes plus tard, interrogé par un de nos confrères, Valentine Rib, qui se trouve avec moi ici à Washington, Pete Hegseth dit, mais attention, le cessez-le-feu n'est pas terminé. Alors, ce qui était quand même très intéressant dans ce briefing qui a eu lieu à 8h du matin, et Pete Hegseth aime bien faire ce briefing à 8h du matin parce qu'il sait que Donald Trump regarde le briefing. Donc ce qui était intéressant dans ce briefing à 8h du matin, c'est Pete Hegseth qui dit voilà, il y a deux opérations en cours. Il y a Project Freedom, le projet Liberté qui est de protéger le détroit d'Ormuz. Mais attention, ce projet Freedom, projet Liberté, eh bien il est très différent de l'opération Führer qui sont les opérations militaires contre l'Iran. Et on a eu le sentiment en écoutant ce briefing pendant une demi-heure que Pete Hegseth voulait vraiment dire voilà, il y a le détroit d'Ormuz, c'est une chose, mais il y a aussi les opérations militaires contre l'Iran. Et là, le président Trump décide de tout. C'est le message que Pete Hegseth a fait passer ce matin à la presse.
Le président décide de tout. Merci Laurent Saïm avec Valentine Rib. Donald Trump qui s'est exprimé lui aussi aujourd'hui. Message adressé une nouvelle fois aux dirigeants iraniens. On l'écoute.
Si on avait laissé l'Iran avoir l'arme nucléaire, nous ne serions peut-être pas là aujourd'hui. Je peux vous le dire, le Moyen-Orient aurait disparu, Israël aurait disparu, et puis ils s'en seraient pris à l'Europe d'abord et ensuite à nous, parce que ces gens-là sont des malades. Et nous ne les laisserons pas avoir l'arme nucléaire. Le pouvoir d'une arme nucléaire, je préfère ne pas en parler ici, mais cela n'arrivera pas. L'Iran devrait hisser le drapeau blanc de la reddition.
Alors, Palaise, on avait cru comprendre ces derniers jours que les conseillers de Donald Trump, ceux qui arrivent en tout cas à lui parler, lui avaient dit qu'il faut arrêter d'insulter les Iraniens, il faut se calmer un peu, on rentre dans un temps peut-être de désescalade. Visiblement, ce n'est pas le propos du jour.
Bah, en fait, c'est un va-et-vient entre diplomatie et coercition maximale. C'est vrai depuis le 28 février. Le Wall Street Journal a fait une enquête assez intéressante ce matin où il dresse un peu la chronologie des contradictions du président.
C'est un long papier, non ?
Ouais, c'est un très long papier, très très intéressant sur trois points majeurs. Un, la durée du conflit, qui est un point évidemment qui a beaucoup varié. Le rôle des États-Unis dans le détroit d'Ormuz et l'objectif de changement de régime qui est parfois revendiqué et parfois nié. Donc voilà, c'est un peu compliqué de s'y retrouver effectivement. Mais en tout cas, c'est toujours le même mode opératoire. On négocie dans les coulisses, ce que font aussi les Chinois d'ailleurs. Hein, par ailleurs, on pourrait y revenir après. Et en même temps, on continue à exercer une pression militaire importante.
Et quand il dit aux Iraniens, je vous conseille de hisser le drapeau blanc, est-ce qu'il a une chance d'être entendu ou pas ?
Alors, moi, ce qui me frappe aujourd'hui, c'est surtout que Trump dit « l'Iran négocie ». Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que l'Iran a envoyé à Pékin son ministre des Affaires étrangères.
C'est ça.
Pourquoi ? Parce que la Chine devient un acteur majeur du conflit, ou parce que Trump va s'y rendre d'ici une dizaine de jours. Mmh. Et en même temps, vous vous souvenez hier, quand on a vu ces échanges de tirs entre les destroyers américains et puis les Iraniens, des tirs de semonce, etc. Mais il y a eu quand même échange de coups de feu.
Oui.
Aujourd'hui, Trump dit, mais c'était juste un petit accrochage. Et son ministre de la guerre dit, mais ils n'ont pas tirer suffisamment fort pour nécessiter une riposte.
C'est donc, juste un petit accrochage chez Donald Trump qui donne aussi le chiffre d'une centaine de petits missiles. C'est voilà. Moi qui rajoute le mot petit, mais envoyé sur les bâtiments américains.
Depuis le début du conflit, ouais. Il y a eu 110 tirs contre des porte-avions, etc., qui n'ont eu aucun effet, etc.
Donc ils minimisent ce qui
mais
s'est passé hier.
C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce qui me frappe, c'est que les Américains, comme, vous savez, le ministre de la guerre, Pete Hegseth, est plutôt un va-t-en-guerre, justement. C'est lui qui prêche avant de donner des conférences de presse, etc. Or, aujourd'hui, il est tout doux. Alors, vous pouvez dire ce qu'il a promis une réponse dévastatrice, mais ça, c'est la rhétorique. La phrase importante, je vous la cite, c'est « les attaques de l'Iran se situent en dessous du seuil nécessitant la reprise d'opérations militaires ». Donc, si vous voulez, on a un Trump qui affiche une certaine bonhomie, plutôt penaud, etc., et qui veut continuer à négocier et qui veut surtout pas la reprise de la guerre.
Mais il veut sortir à tout prix de la guerre aujourd'hui, Donald Trump.
Bah, en fait, en tout cas, aujourd'hui, il a un test électoral important dans l'Indiana, et pas que d'ailleurs. Enfin, il a un ensemble de tests vis-à-vis de son opinion, de son congrès, etc. Et donc, il essaye de maintenir un petit peu les deux feux, parce qu'il a aussi une partie de l'opinion qui veut continuer à aller en guerre. Une partie de l'opinion aussi des jeunes, je l'ai déjà dit, qui est assez peu favorable à Israël. Et donc, voilà. Et donc, il gère un peu ces deux dossiers.
Effectivement, il y a une maîtrise de la violence. On a eu hier l'incident avec les destroyers, le passage de bateau. On s'attendait à un retour, à nouveau que ça se reproduise. Ça ne s'est pas produit encore. Donc, il y a eu un test, une première étape. On attend la réaction. Il attend la réaction des Iraniens. Il mesure. Puis, on verra la suite.
En tout cas, ils n'ont pas empêché. Là, il y a encore deux navires, deux destroyers américains qui sont rentrés aujourd'hui dans le Golfe Arabique. Et alors, on ne sait pas si ça a tiré, pas tiré. On n'a pas encore les informations là-dessus. Mais ils sont passés. Et les Iraniens n'ont pas été capables de les empêcher de passer.
Ouais. Quand Donald Trump dit aujourd'hui « l'Iran veut un accord », est-ce qu'on en est sûr et certain ? Qu'aujourd'hui, il y a une volonté du régime iranien
des Iraniens
dirigés de conclure un accord.
Ça dépend sur quoi ? Si c'est sur le nucléaire, incontestablement, c'est pas pour demain matin. Mais sur le reste, il y a une volonté effectivement de l'Iran de trouver un accord sur le Golfe, à condition que les conditions soient bien précises. En fait, la grande bataille aujourd'hui du moment, c'est qui contrôle le Golfe Persique. Les Américains disent c'est nous, avec l'armada et les destroyers qui font leur travail de guidage, et les Iraniens disent c'est nous.
Et si on regarde nous avec notre regard de français, qui aujourd'hui contrôle le détroit ?
En ce moment, les deux jouent leur rôle dans le détroit.
Honnêtement, c'est trop tôt pour répondre à cette question.
Oui, mais
d'abord parce que je pense que les Iraniens n'ont pas répondu à Trump. Trump lui-même n'a pas encore totalement identifié. Je pense qu'il y a une partie des Iraniens qui sont prêts à négocier, une partie qui est contre. Il y a quand même eu des interrogations hier. Enfin, on a quand même plusieurs dirigeants iraniens qui ont été très surpris par les tirs des passes d'Aran contre les navires américains. Ça a été. Donc, je pense que c'est aujourd'hui, de là où on est, on peut pas le dire où ils en sont.
Ouais.
Ce qui est clair, c'est que les contacts sont conservés. C'est-à-dire qu'il y a toujours des discussions et que Trump n'a pas rompu. Et justement, c'est pour ça qu'il estime que politiquement, il est sous le seuil de l'arrêt. C'est un cessez-le-feu. Par
ça mérite pas de rompre le cessez-le-feu, ce qui s'est passé là.
C'est ce
pour lui.
Lui décide que non. Puisque, pour une raison simple, c'est que là, et pour répondre à la deuxième partie de la question qui contrôle, en fait, à ce stade, les Américains sont en train d'essayer non pas de reprendre totalement le contrôle du détroit, mais en tout cas de reprendre la moitié du détroit.
Oui.
Puisque si ça passe sur leur moitié à eux, les Iraniens peuvent toujours bloquer sur leur moitié à eux, ils sont quand même, ça rajoute de la pression américaine. Entre le blocus et ça, il se donne un peu d'air. Donc c'est ça, je pense, qu'il essaye de faire. Est-ce que ça marchera dans les temps que Trump veut se fixer ? Je ne sais pas.
Ouais.
Je ne pense qu'il ne le sait pas encore. Il va se donner un peu de temps pour voir si ça marche. C'est pour ça qu'on n'est pas tout de suite reparti à du bombardement et qu'il ne veut pas dire que la trêve est rompue. Mais comme toutes les trêves, il y a des accrochages. Ouais. Il estime que l'accrochage est suffisamment léger, bien que ce qui a été raconté ce matin dans la conférence de presse par l'amiral Cooper, c'était quand même, ça avait l'air d'être chaud patate. Hein. Ils ont quand même bien essayé de les toucher, hein, les navires. Ouais. Ils n'ont pas tiré que de la semonce.
C'est pas de la bataille navale en jeu électronique. Oui.
Ils ont essayé. Voilà. Donc.
Mais la question aussi, c'est est-ce que les objectifs politiques que se fixe Trump, que sont, les sanctions, le nucléaire, les proxys, etc., peuvent être réglés militairement? militairement, quoi. Ou est-ce que c'est par le jeu diplomatique? C'est vraiment la question qui est posée à l'administration américaine aujourd'hui.
Mais je pense que c'est aussi une question de posture, parce qu'on évoquait trois rendez-vous très importants pour Donald Trump. Le prochain, la semaine prochaine, avec une visite officielle en Chine qui avait déjà été repoussée, où il va falloir parler de ce blocage, de la guerre en Iran, du blocage du détroit d'Ormuz. La Chine est absolument contre la situation actuelle. Elle se prononce pour la paix, en faveur de la stabilité internationale. Donc c'est une critique tout à fait fielleuse, hein, dissimulée de la politique américaine. Elle continue à fournir l'Iran en matériaux très utiles. Il y aura par ailleurs le 4 juillet la grande fête des 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis, et le 3 novembre prochain les midterms. Il est important pour Donald Trump, au vu des raisons des sondages, des derniers sondages publiés hier sur lesquels Ulysse est revenu de manière assez extensive, de rassurer, de ne pas être le président de la guerre auprès de Xi Jinping, mais aussi auprès des Américains. Et c'est pour ça également qu'il a dit, vous allez voir, les prix de l'essence, ils vont redescendre encore plus bas que vous ne pouvez l'imaginer. Il doit rassurer, et c'est aussi pour ça que ces hommes distribuent, ou tiennent plutôt, un discours de pondération très inattendu, un discours de politicien pondéré.
Ouais, enfin, avec une lassitude quand même de sa classe, de son appareil politique, à l'intérieur du parti, qui dit, en fait, on n'a plus aucune marge de manœuvre sur l'agenda législatif, on a un super président qui décide un peu trop au-delà de l'Iran, et donc il faut rassurer un peu les troupes. Mais il les tient quand même, les troupes.
On va rappeler quand même qu'il y a deux pays qui sont entrés en guerre contre l'Iran au début des frappes, les États-Unis et Israël, où on va aller retrouver justement Amélie Rosic tout de suite, qui est à Tel Aviv avec Juan Palencia. Est-ce qu'Israël a le doigt sur la gâchette? Est-ce que Benjamin Netanyahou est prêt à relancer les frappes? Ou est-ce qu'on est, là aussi, extrêmement prudent avant de bombarder éventuellement à nouveau l'Iran et d'enflammer à nouveau toute la région?
Non, ici en Israël, on n'est pas tout à fait sur la même posture qu'aux États-Unis et que le président Trump. Au contraire, hein, Benjamin Netanyahu, depuis le début du cessez-le-feu, on peut dire qu'il pousse presque les États-Unis. Il est lui-même poussé par l'armée, par Tzahal, déogradé des forces armées israéliennes il y a quelques jours. Disait que si on n'atteignait pas les buts de guerre, toute cette opération, toute cette offensive contre l'Iran n'aura servi à rien. Le but de guerre pour Israël, c'est de réduire la menace que constitue l'Iran, à la fois d'une manière balistique mais aussi nucléaire. C'est sécuriser l'uranium enrichi. On sait, on imagine qu'il y aurait 440 kilos enrichis à 60%. Et tant que ça, c'est pas atteint, ici en Israël, on n'est pas prêt à mettre fin et à ne pas relancer, j'ai envie de dire, l'offensive. Et puis de toute façon, le pays s'y prépare de manière très concrète. D'abord, le Premier ministre tient deux à peu près conseils de guerre chaque semaine, ça depuis le début de la guerre en Iran le 28 février dernier. Il a continué à le faire cette semaine. On a pu voir également des communications au sujet de nouveaux armements qui seront utilisés et qui sont prêts à être utilisés par Israël, notamment des drones nouvelle génération avec des filets qui suivent donc les drones iraniens, les Shahed utilisés par l'Iran et qui sont en capacité de les arrêter. C'est assez impressionnant sur les images d'ailleurs, en les survolant puis en leur lâchant des filets qui les envoient au sol. Donc ici, très clairement, on attend tout simplement le feu vert des États-Unis, alors même que Israël, je le rappelle, est sur un autre front au sud du Liban. Et là encore, l'offensive, elle continue malgré le cessez-le-feu. Aujourd'hui, il y a eu un point presse de Tzahal qui a expliqué notamment que le Hezbollah avait tiré en direction d'un aéronef, d'un avion de combat israélien, mais qu'il avait manqué sa cible. Et puis, je rappelle quand même que, par ailleurs, Israël, on le sait, est un partenaire, et désormais on le sait très clairement, stratégique, sécuritaire des Émirats Arabes Unis, puisqu'on a vu aujourd'hui pour la première fois le dôme de fer, une unité du dôme de fer qui est aux Émirats Arabes Unis, qui a été déclenchée pour contrer un missile qui était envoyé depuis l'Iran vers Dubaï.
Merci beaucoup Amélie Rosic. Est-ce qu'on peut imaginer Israël reprendre la guerre sans les États-Unis, tout seul contre l'Iran? Ou le silence?
Non.
C'est impossible ou c'est possible?
Ça dépend ce qu'on appelle guerre, en fait.
Non, dit l'amiral.
Amiral, allez-y.
Mais en Iran, hein.
Ouais, ils peuvent faire des raids. Mais c'est, enfin, je vous laisse répondre.
Mais ils foutent du ravitaillement en vol.
C'est ça. Ils en ont que 5.
Et ils sont très limités. Et donc, ils ont besoin du concours des États-Unis. Il faut aussi toute la surveillance satellite. Il faut les avions radars, les, soit AWACS, soit OKAI s'ils viennent des porte-avions. Il faut tout ça. Et donc, ça, ils ne peuvent le faire qu'un raid chirurgical, c'est ce qu'ils ont fait aux Irak en son temps, ce qu'ils ont fait en Syrie, mais pas une guerre comme ça a été le cas depuis le 28 février.
Ouais, je voudrais qu'on prenne des nouvelles du projet Liberté, annoncé en grande pompe il y a un peu moins de 48 heures par Donald Trump, c'est-à-dire le déblocage du détroit d'Ormuz. Si on a bien compté, puisqu'on surveille évidemment avec toutes les équipes de BFM TV sur le terrain et ici à Paris, le nombre de bateaux qui franchissent officiellement le détroit, c'est-à-dire ceux qui ne coupent pas le GPS, si on a bien compté depuis hier matin, on en est à 3. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite ?
Honnêtement, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour le dire. Oui. On est vraiment dans la première phase. Moi, je sais pas. Pour l'instant, les bateaux, c'est clair, c'est pas ouvert. Hein. On a vu à parler. En revanche, pour la deuxième fois, là, il y a quand même deux. Encore une fois, il y a deux destroyers qui sont rentrés. Ils sont allés se coller en face d'Abu Dhabi.
Ça, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est les navires. Mais... Moi, je parlais des bateaux de commerce, évidemment.
Oui. Sauf que normalement, ça rentre et ça sort. C'est-à-dire que les bateaux de commerce, c'est clairement pas commencé. On est encore vraiment très au compte-gouttes avec, je pense, une grosse inquiétude des armateurs et des assurances. Je suis pas spécialiste, mais j'imagine que c'est ça. D'autres pourront le dire mieux que moi. En revanche, ce qui est quand même intéressant de voir, que aujourd'hui, militairement, les Américains ont refait passer deux bâtiments de guerre à l'intérieur du Golfe Arabo-Partique, donc grosso modo, ils sont rentrés dans la gueule du loup, pour aller se mettre en face des Émirats Arabes Unis pour servir de défense antiaérienne. Donc, militairement, ils continuent d'opérer et de pouvoir opérer.
De sécuriser un peu.
Mais en fait, ils opèrent sans risque. Eux le font, en tout cas, sans avoir de pertes. Est-ce qu'ils ont pour autant rétabli la confiance des navires commerciaux ? De toute évidence, non.
Amiral, je me tourne vers l'ancien chef d'état-major de la marine. Est-ce que vous pouvez m'expliquer très simplement pourquoi certains bateaux passent et d'autres pas ?
Parler de bâtiments de guerre ou de bâtiments...
Non, je parle de du commerce. Les 900 qui sont coincés et qui essayent de sortir.
Ah, mais attendez, les deux ou trois. Oui. Mais moi, pour moi, j'étais sur deux. C'était des bâtiments sous pavillon américain.
Oui.
Alors que c'est très rare le pavillon américain dans la flotte de commerce. Ah,
Donald Trump a expliqué, si j'ai bien compris, que c'était pour des pays, les bateaux qui allaient pouvoir passer étaient des pays qui n'avaient rien à voir avec la guerre et que c'était pour des raisons humanitaires. Là, vous me dites, ce sont uniquement des bateaux américains qui passent.
Je vous dis le contraire. Oui. Je vous dis que
vous avez raison. Vous avez le droit. En tout
l'alliance,
cas.
Comment il s'appelle, l'alliance quelque chose. Un des bateaux.
Alliance Fairfax.
Alliance Fairfax.
Mais c'est
exactement.
Une compagnie danoise.
C'est un armateur danois
et un pavillon américain. Donc en fait, il y a que des bateaux américains.
C'est un bâtiment de transport de véhicules. C'est-à-dire, c'est des bâtiments qui servent à amener les véhicules blindés pour la marine américaine.
Ça n'a rien à voir avec l'humanitaire.
C'est une autre forme d'humanitaire.
Oui, mais comme vous dites ça.
L'objectif est purement politique. Il s'agit de dire aux Iraniens, vous n'avez pas le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est nous qui l'avons. Et d'ailleurs, ce soir, les Iraniens, de nouveau, mettent en garde les armateurs en disant, si vous ne respectez pas les lignes de passage qui sont prévues, eh bien, vous exposez à des tirs. On a eu tout à l'heure sur BFM TV, en direct depuis le Golfe Persique, un capitaine
bloqué.
De navire bloqué depuis maintenant 68 jours, et qui nous disait, pour moi, c'est pas possible, on ne peut pas, c'est trop dangereux, l'armateur ne veut pas, il y a trop de risques, et les assurances n'assurent pas. Donc, la réponse à votre question, c'est normal, de toute façon, les Américains l'avaient dit dès le début, on va pas réouvrir le détroit en quelques jours, il faudra des semaines pour que ça se passe, mais c'est une façon très politique de dire, vous n'êtes pas les seuls à contrôler le détroit. Et d'ailleurs, il faut libérer la navigation sur le détroit.
Amiral, vous voulez réagir?
Oui, vous avez dit les assureurs n'assurent pas. Vous avez parfaitement raison. Et dans le cas des deux bâtiments sous pavillon américain, c'est le gouvernement américain qui a assuré.
Ah bon?
Oui. C'est comme ça que ça se passe.
Oui, c'est une bonne garantie, généralement. Normalement, quand l'armée américaine vous escorte, normalement, les assureurs...
Non. S'il se passait quelque chose, c'était pour le budget américain.
D'accord. Ça, j'ignorais, j'avais pas cette information.
Général, il faut vraiment être spécialiste pour
ça. C'est pour ça qu'on vous invite. Général, vous allez m'accompagner si vous voulez bien. On va faire quelques pas ensemble. On va parler justement d'une petite partie du dispositif américain pour tenter de libérer ce détroit d'Ormuz et notamment du rôle d'un avion en particulier. C'est un chasseur de combat. C'est bien ça, c'est le FA-18 Super Hornet.
Super Hornet. Alors, c'est une merveille en fait. Mais c'est une merveille qui est une évolution du prédécesseur du F-18 Hornet qui a commencé à être mis en service dans les années 80 et qui a quitté le service vers 2019. Alors, c'est une version beaucoup plus grosse, fuselage plus grand, des charges plus lourdes. Il a 11 points d'emport.
C'est quoi un point d'emport?
Les points d'emport, en fait, vous voyez, c'est ce qu'on voit un petit peu sous les ailes. Sous les ailes, alors dessous, il peut emporter des bombes, il peut emporter des missiles, il peut emporter
des réservoirs supplémentaires. 11 points pour accrocher des bombes.
11 points pour accrocher des bombes.
D'accord.
Bon, c'est un avion qui est ravitaillable en vol, qui peut être biplace ou monoplace. Et puis, bon, bah, pour voir un peu quel est cet avion, bah, il suffit de regarder Maverick, hein, avec Tom Cruise. Tout
c'est
simplement.
Ben bah voilà. Tout de suite, vous auriez dû le dire au début.
Vous voyez exactement les caractéristiques, tout ce qu'il est capable de faire. Bon, il n'y a pas que le pilote qui fait tout, bien sûr. Et puis après, il va au bar de l'escadrille. Mais ça, non. C'est un avion qui est une belle merveille, ouais. Qui est un peu en concurrence avec le Rafale, quand même. Et surtout, la première version, la Marine nationale, était très attirée pour remplacer les vieux Crusader qu'on avait, qui dataient un peu du Vietnam, par la première version, par le F-18 Hornet. Mmh. Et puis finalement, on a attendu, on a le Rafale, qui est un peu le concurrent. Et dans certains marchés, il est en concurrence avec le Rafale. Mais bon. Le Rafale est bien meilleur, c'est bien évident. C'est Boeing qui le construit. C'est un avion multirôle qui peut faire de l'interception, donc de la chasse contre d'autres avions, et de l'attaque au sol. Et là, bien évidemment, il est utilisé pour l'attaque au sol, pour les bombardements au sol.
Mmh. Ces avions, ils sont ravitaillés en l'air?
Oui, ils sont ravitaillés en l'air. Et lui-même, d'ailleurs, peut ravitailler en vol. C'est-à-dire qu'on peut voir deux F-18 Super Hornet se ravitailler. C'est assez impressionnant comme système. Alors là, vous voyez, il y a une version monoplace qu'on voit sur l'image. Et puis, version biplace, donc avec l'officier système d'armes, donc qui guide un peu pour les attaques au sol.
Et ces ravitaillements en l'air qu'on voit là,
c'est ça qu'on appelle... Vous voyez, faire très attention, et ça, c'est encore autre chose.
C'est ça qu'on appelle l'hippodrome. Expliquez-moi ce que
non,
c'est que ce mot d'hippodrome.
C'est ça, effectivement, l'hippodrome. C'est un avion de ravitaillement en vol qui tourne sur un hippodrome, effectivement, et tous les avions viennent se ravitailler. Là, on voit un F-16 qui vient se ravitailler. Mmh. Et donc là, c'est évidemment, ça allonge la durée de vol, la durée de patrouille en vol, et puis donc pour qu'un objectif soit désigné au bon moment.
C'est une sorte de station-service ambulante.
C'est une station-service, ouais. Et voilà, je sais pas si ça se dit encore, la vache à lait de ravitaillement, je sais pas si c'est un vieux terme qui me revient en tête. Et vous voyez tous les types d'avions, là on voit un F-16 qui se fait ravitailler, là encore un F-16, et donc voilà, c'est une opération où maintenant tous les avions de combat sont ravitaillables en vol, bien évidemment. Ça, c'est vraiment l'intérêt. Puis ils tournent, et j'attends un objectif pour attaquer au sol.
Merci beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le dispositif américain pour tenter de débloquer aujourd'hui, demain ou après-demain le détroit est sur place, amiral, ou est-ce qu'il faudra le muscler encore plus?
Non, je pense qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a, je sais pas, une quinzaine de frégates ou pas de frégates. On appelle destroyers en américain, mais toutes de la même classe, Arleigh Burke, et qui sont très efficaces, qui ont différents types de missiles pour la défense antiaérienne, comme vous le soulignez, des missiles qui peuvent aller intercepter de balistique le plus haut possible. Non, il y a tout ce qu'il faut. Il y a les avions radars des porte-avions. Il y a donc pour savoir poursuivre les bâtiments, où sont les bâtiments, parce que le GPS, là, on oublie. L'AIS, on oublie. Tout ça, c'est brouillé. Il y a du spoofing, pour utiliser des termes
techniques. Le spoofing, c'est quand on brouille les GPS, c'est ça?
On les cache. Voilà.
C'est quand on cache, quand on coupe son système de...
C'est l'AIS, Automatic Identification System.
Oui. Si vous, aujourd'hui...
L'IFF de l'avion, là, ça s'appelle AIS pour les bateaux, parce qu'on a un langage différent, nous.
Si vous n'étiez pas militaire et que vous étiez aujourd'hui à la tête d'un de ces bateaux de commerce qui doit franchir ou qui tente de franchir, vous le feriez ou pas?
Moi, j'aurais un armateur.
Elsa fait non de la tête.
Moi, j'aurais un armateur qui me dirait ce que je dois faire. Ouais. Parce que s'il y a les intérêts financiers qui sont derrière, il y a la cargaison.
On fait pas ce qu'on veut quand on a 2 millions de dollars dans les cuves, c'est ça?
Non, on fait pas ce
Et c'est pas
veut.
Seulement ça, c'est qu'aujourd'hui, le bateau avec l'assurance coûte quasiment plus cher que ce qui se transporte.
Ah oui?
En plus, il sait pas où il va le transporter, parce que ça change en cours de transit.
Et l'armateur, il vous dirait que le projet Freedom est assez flou, quoi. Les modalités.
Pour le moment, oui.
Et pourtant.
Exactement.
Et pourtant, mais c'est là que j'ai besoin de vos lumières, parce que j'avoue que je n'ai pas tout compris. Et je vous écoute attentivement, Didier, depuis plusieurs jours, nous dire attention au décompte officiel des bateaux qui passent. Il y en a peut-être d'autres qui passent officieusement en douce, en cachette.
Oui, mais même s'il y en a qui a un peu plus qui passent officieusement, en fait, c'est pas réouvert. On est vraiment dans la première phase où la phase d'observation. En fait, vous voyez bien, parce que on parle des bateaux, on a parlé des avions. En fait, tout ça est coordonné par le centre de commandement, c'est la 82e Airborne. Donc, c'est les parachutistes. Vous vous rappelez, on parlait des parachutistes et des Marines. Qu'est-ce qu'ils vont faire?
Ceux de Saint-Pierre-Église.
Ils vont prendre les grilles. Oui, ceux de Saint-Pierre-Église.
Bah, je sais, vous avez même montré la photo le premier jour de la guerre.
Rappelez ce qu'on disait. Est-ce qu'ils vont prendre Cargue? Est-ce qu'ils vont prendre des îles? Est-ce qu'ils vont prendre ci? Est-ce qu'ils vont prendre ça? Aujourd'hui, ce qu'ils font, en tout cas, c'est que le PC, tac, avancer, le PC tactique, celui qui coordonne l'ensemble des opérations maritimes, aériennes et terrestre, donc les trois armées, c'est la 82e basée au Koweït. Que ceux qui ont envoyé les, et que c'est coordonné, pourquoi? Parce que les Apaches, les hélicoptères qui interceptaient les petites vedettes, c'était des gars de la 4e division d'infanterie, avec qui ont les hélicoptères de combat, qu'il y avait une partie des 6 Stallions qui étaient des autres hélicoptères de combat et qui étaient, eux, envoyés par les Marines du 31e MEU. Donc, vous voyez bien, et que tout ça devait être coordonné avec les actions aériennes de l'aéronaval et des forces aériennes. Donc, vous voyez bien qu'il y a un commandement qui est dédié à cette partie de l'opération, qui est gérée par la 82e Airborne et qui, là, a fait 2 essais aujourd'hui et hier, mais on en est vraiment à la toute première phase de ce dispositif. Et pour l'instant, la confiance, c'est pas parce que Maersk, la partie, effectivement, comme ça a été dit, sous pavillon américain, escorté.
Ça, c'est le gros bateau qui est passé aujourd'hui.
Qui est passé hier, oui.
Hier, pardon.
Aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a rien, pour l'instant, à ce qu'on sache, qui a embrayé. Donc, attention, on est toujours en phase de test. Je pense que ça prend encore quelques jours avant que l'affaire se clarifie.
Laure Palès, est-ce que vous arrivez à savoir, vous, où va Donald Trump?
Oh là.
Oui. Vous avez 4 heures. Oh.
Non, mais il a des échéances, vous l'avez dit, Elsa, assez rapides. Il a une grande échéance les 14 et 15 mai avec Xi Jinping. C'est tout de même important de le rappeler. Bon, on parle souvent de G2, c'est pas un terme diplomatique, mais en tout cas.
Le sommet mondial.
Eh ben exactement, de discussion, de cette relation qui façonne le 21e siècle avec un président, enfin deux présidents qui se connaissent bien. On dit beaucoup à Washington qu'il est trop proche de Xi Jinping, d'ailleurs. Enfin, on lui reproche d'être finalement trop, favorable à la Chine. Donc, où est-ce qu'il va? Il pense à ce prochain sommet. Il pense à ses élections demi-mandat aussi. Mais j'ai dit tout à l'heure, il a des tests électoraux qui sont en cours. Il a un parti qu'il doit tenir et en même temps, a priori, il ne se représentera pas. Il se représentera. Voilà. Donc, où est-ce qu'il va? Il va. Il veut aussi son héritage. Hein. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on a déjà dit. Bah, il veut, enfin, l'héritage pas financier, mais peut-être. Mais en tout cas, il veut son legacy, c'est-à-dire il veut laisser sa trace dans l'histoire. L'Iran, c'est un énorme morceau pour les Américains. C'est 47 ans de conflit et c'est sûr que il veut laisser sa trace dans l'histoire probablement.
Ouais, vous parlez d'héritage. Laure Palès, Raphaël Grabi vient de nous rejoindre. Bonsoir.
Bonsoir Marc.
Raphaël, pour le radar de 60 minutes, nous on va parler avec vous de la fortune de Donald Trump. Il y a eu plusieurs enquêtes ces derniers jours de grands médias américains qui montrent que sa fortune a grossi de plusieurs milliards de dollars juste depuis qu'il est revenu à la Maison Blanche. Ah, oui, il y a un peu plus d'un an.
Exactement. Là, on va parler d'un héritage purement financier, 4 milliards de dollars, Marc, depuis la réélection de Donald Trump, avec une fortune qui dépasse désormais les 6 milliards de dollars. Vous voyez le graphique apparaître, vous voyez que le premier mandat n'était pas forcément très fructueux. Le deuxième l'est beaucoup plus, le patrimoine a été multiplié par 3 depuis 2024.
Et c'est pas avec son salaire de président, puisqu'il ne touche pas.
Exactement.
Il le reverse à l'État.
Exactement, et pour le média américain Forbes, c'est la présidence la plus lucrative de l'histoire américaine.
Il le gagne comment, cet argent?
Alors, en partie avec ses crypto-monnaies. Vous savez, il a lancé des crypto-monnaies qui auraient rapporté près d'un milliard de dollars, notamment grâce à un acheteur, les Émirats Arabes Unis.
Ah bah tiens.
Et oui, 2 milliards de dollars investis l'an dernier dans les crypto-monnaies de Donald Trump. Alors, hasard du calendrier, le pays a ensuite obtenu un accès absolument crucial à des puces dédiées à l'intelligence artificielle, un accès qui était jusque-là bloqué par les États-Unis, notamment en raison de la proximité entre les Émirats Arabes Unis et la Chine.
Ses proches aussi gagnent pas mal d'argent.
Et c'est là où la notion d'héritage peut devenir importante. Oui. À commencer effectivement par ses enfants, avec un exemple qui est très loin d'être anodin. Ses deux fils aînés, Eric et Donald Trump Jr., ont investi dans une entreprise de drones, entreprise qui vient tout juste, c'était la semaine dernière, d'annoncer un contrat avec l'armée américaine qui a choisi le modèle qui va s'afficher, qui s'appelle le Guardian, un drone conçu pour intercepter d'autres drones. Voilà, là vous le voyez apparaître à l'écran, justement des drones exactement comme ceux qui sont envoyés.
Ça, c'est encore un drone.
Exactement, ça, c'est un drone intercepteur.
On va pas tarder à réinventer l'avion quand même.
Exactement.
On y va.
Et qui est fait pour intercepter justement les drones qui sont envoyés par l'Iran sur les pays du Golfe, autant de futurs clients potentiels pour l'entreprise où ont investi les enfants Trump. Et puis, je voulais vous montrer un petit calcul de l'évolution de la fortune de Donald Trump. Si on suit cette tendance, elle grossit de 3 milliards de dollars par an. Ça fait 250 millions de dollars par mois, 8 millions par jour, 340 000 dollars par heure, ou encore 15 000 dollars depuis le début de ma chronique.
Mmh. Mais ça fait cher la chronique.
Alors, oui.
Ça fait cher la chronique. Je vous pose la question à 4 milliards. Elsa Ulysse, est-ce que Donald Trump et sa famille sont des profiteurs de guerre? Puisqu'on parle que de ça en France en ce moment.
Ils ne sont pas que des profiteurs de guerre. Ils sont lancés dans un mercantilisme agressif. Ils profitent de la guerre, mais ils profitent de la situation dans son ensemble, du fait que la famille soit aux commandes de l'entreprise américaine, les États d'Amérique, les États-Unis d'Amérique, la plus grande puissance économique encore à ce jour, bien que talonnée par la Chine, et militaire. Donc, ils profitent, oui.
Mais aux États-Unis, ça choque personne. En France, on imagine qu'on parle que de ça.
Ça choque. Il y a quand même des institutions qui sont là pour alerter. Mais c'est vrai que jusque-là, ça n'a pas jeté les Américains dans les rues. Les Américains aussi profitent des crypto-monnaies. Mais
oui. En fait, ça nous rappelle que la...
Non, vas-y.
Non, la politique est un business. Et avec Trump, c'est un family business.
Voilà.
Oui, enfin, c'est pas ça qui va lui faire perdre les midterms. Ce serait plutôt la gestion du dossier Epstein, à mon sens, bien plus que sa gestion, la gestion de sa fortune familiale, bien qu'il y ait probablement des conflits d'intérêts, etc. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui choque les Américains.
C'est pas un sujet aujourd'hui pour les Américains.
Pour certains, oui, bien sûr. Mais franchement, cette brutalité, cette vulgarité, voilà, elle a comme conséquence une espèce de stupéfaction et puis d'ambivalence en se disant, finalement.
Je précise qu'il y a toute la presse américaine qui a traité ces sujets à plusieurs reprises, que ce soit le New York Times, le Washington Post, Reuters, Bloomberg, etc. Alors après, ils les traitent toutes de fake news.
Il y a des rapports concrets.
Il y a des rapports concrets. Donc la documentation aux États-Unis, le traitement journalistique, il est extrêmement important.
Surtout que le fils Biden avait été attaqué pour ces mêmes raisons. Donc aujourd'hui, ça se retourne évidemment contre lui, mais c'est, je dirais, un sujet peut-être secondaire pour les Américains.
Merci beaucoup à tous les six d'être venus ce soir sur le plateau de 60 minutes. On va recevoir à présent notre invité pour parler non pas de Donald Trump, mais plutôt des conséquences notamment du choc pétrolier que subit aujourd'hui une grande partie de la planète et que subissent aujourd'hui les Français, les prix à la pompe. On parlera aussi avec lui du fameux rapport à l'oncle du nom de ce député ciotiste sur l'audiovisuel public. C'est Jean-Philippe Tanguy qui nous rejoint à présent. Bonsoir.
Bonsoir.
Député du Rassemblement National de la Somme et membre de la commission des finances. Je voudrais d'abord vous entendre sur une annonce qui a été faite aujourd'hui par l'Élysée. On apprend qu'Emmanuel Macron envisage de nommer l'homme qui a été son bras droit, Emmanuel Moulin, son secrétaire général de l'Élysée, à la tête de la Banque de France. Est-ce que pour vous c'est un sujet qui prête à polémique ou est-ce que vous considérez que c'est tout à fait normal, puisque c'est le rôle du chef de l'État de proposer ce genre de poste ? Est-ce qu'il y a une polémique pour vous ou pas ?
Ah non, c'est une nomination qui est très préoccupante, d'une part parce que ça confirme que la démission de M. Villeroy de Garlot, gouverneur de la Banque de France, était cousue de fil blanc et que c'était bien une volonté d'Emmanuel Macron de verrouiller la Banque de France pour 2027 comme il a verrouillé la Cour des comptes avec la nomination de Mme de Montchalin. Et le profil de M. Moulin est très inquiétant. Il était à la tête du Trésor, donc le Trésor est une des deux grandes administrations de Bercy en charge des comptes publics et de la prévision économique. Et il est directement impliqué dans les erreurs de prévision de recettes de 40 à 60 milliards d'euros qui sont renseignées, qui sont documentées. C'est pas une attaque du Rassemblement National.
Sa compétence que vous mettez en cause.
Ah bah oui, quand vous êtes à la tête du Trésor, que vous êtes directement responsable de ces prévisions de recettes et un certain nombre d'analyses qui nourrissent la réflexion du ministre, à l'époque monsieur Le Maire, pour établir le budget. Qu'il y a un trou, on peut se tromper de quelques milliards, de 40 à 60 milliards. C'est entre plus de 1 point et 2 points de PIB qui ont conduit à des déficits monstrueux, qui d'ailleurs n'ont pas donné lieu, je pense, à un scandale d'État comme ça aurait dû donner lieu. C'est très grave. C'est-à-dire qu'on nomme des gens complètement incompétents. D'ailleurs, pendant la commission d'enquête sur les comptes publics à l'Assemblée nationale, il avait été auditionné. Et moi, je lui ai posé une question très directe. Je lui avais dit que je ne comprenais pas comment il n'avait pas pu de lui-même démissionner de la fonction publique.
Et quand vous avez demandé aujourd'hui, la position de RN, c'est de demander à Emmanuel Macron de renoncer à cette nomination.
Bien sûr. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, nous avons été consultés, ce qu'on dit en off, en coulisses, sur cette nomination, comme beaucoup d'autres. J'ai vu que le président Coquerel de la commission des finances lui-même avait dit qu'il avait été consulté et qu'il s'y était opposé. Et on s'y opposait. Moi, je l'ai fait savoir à qui de droit qu'on était totalement opposé à cette nomination, non pas contre la personne de Monsieur Moulin que je ne connais pas, que je n'ai pas à connaître, mais sur ses compétences. Et une fois plus, c'est pas une attaque politicienne de ma part. Est-ce qu'il était à la tête du Trésor entre 2022 et 2024 où il y a ces déficits particulièrement scandaleux? Oui. Est-ce qu'il était responsable de la direction de Bercy, responsable de cette faute de 40 à 60 milliards? Oui. Donc quand vous savez que dans notre pays, vous avez des honnêtes gens caissiers dans des supermarchés qui parfois sont licenciés parce qu'ils ont mangé un pain au chocolat, parce qu'ils ont offert un sandwich, parce qu'ils ont utilisé un bon de réduction, ils sont licenciés et ils ont droit à rien. Et par contre, quand vous êtes à la tête de Bercy, payez 15 000 euros par mois, et vous faites une erreur de 40 à 60 milliards, vous êtes nommé à la Banque de France. Vous savez, au-delà de la personnalité de Monsieur Moulin, non, mais c'est quand même important par rapport à que traverse notre pays. Il y a aussi cette indécence. Voilà. C'est-à-dire que on peut pas en appeler à la responsabilité toute la sainte journée et nommer des gens qui ont autant fauté, qui se sont autant trompés. Je ne dis pas que c'est que la faute de Monsieur Moulin, mais on peut pas être à la tête d'une direction aussi importante que le Trésor, avoir fait un trou de 60 milliards et vouloir aller à la Banque de France. Il y a un moment, c'est pas sérieux.
Voilà, on entend donc l'opposition très nette du Rassemblement National à l'arrivée d'Emmanuel Moulin, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a encore un processus à respecter, à la tête de la Banque de France en remplacement de François Villeroy de Galhau, dont le mandat s'arrête dans quelques mois. On va parler d'autres milliards qui font débat aujourd'hui en France, Jean-Philippe Tanguy, ce sont les bénéfices du groupe Total, qui a annoncé un bénéfice au premier trimestre d'un petit peu plus de 5 milliards d'euros. Il y a tout un débat lancé ces derniers jours. Et ce soir, le patron de Total prend la parole dans une interview. Patrick Pouyanné dit « Si le gouvernement met en place une taxe sur ses bénéfices, je ne pourrais pas maintenir le fameux plafonnement des prix des carburants. » Est-ce que vous considérez que c'est du chantage de sa part ?
Oui, de toute évidence, oui, c'est du chantage, parce que on peut pas lier une politique commerciale d'une entreprise à une politique gouvernementale, ou alors ça voulait dire qu'il y avait une combine entre le gouvernement et Total pour essayer de limiter ou de négocier le fait que le gouvernement avant ne réfléchisse pas à une taxe sur ses surprofits, parce que
c'est quoi la combine?
C'est-à-dire qu'on a l'impression que depuis le début, il y a un échange de bons procédés entre le gouvernement et Total sur la limitation de ses prix, ce qui est quand même une offre commerciale. Est-ce qu'il faut bien avoir conscience aussi, d'ailleurs vous l'avez suivi.
C'est le seul pays où Total fait ça.
Oui,
il le rappelle, Patrick.
Oui, mais vous avez aussi suivi que les pénuries qu'il y a eu dans notre pays étaient essentiellement sur les stations Total.
Parce que justement, il y avait beaucoup de monde à la pompe pour profiter du plafonnement.
Vous avez raison, mais quand vous faites une opération commerciale de cette sorte, vous devez aussi vous assurer que les cuves sont pleines.
Vous soupçonnez Patrick Pouyanné d'avoir lancé une opération.
Ah, totalement, oui.
Mais c'est plafonnement sans remplir ses cuves pour que le moins de monde possible.
Je le soupçonne pas, je constate qu'il n'y avait pas assez de produits pour satisfaire la demande, alors que quand vous faites des prix moins chers que la concurrence, vous savez très bien que vous allez avoir plus de consommation. Enfin, je veux dire, et Total, et c'est un fleuron national, moi je suis très fier de cette entreprise. Et s'il y a bien une chose que Total maîtrise, c'est l'approvisionnement dans notre pays. Voilà, mais je ne lui fais pas grief. C'est une.
Mais vous soupçonnez quand même Total d'avoir.
Mais non, mais c'est
un peu enfumé les Français.
Non, ces prix ont existé. Ouais, mais je crois que s'ils avaient voulu assurer les stations-service sur le territoire, ils auraient pu le faire, voilà.
Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, Jean-Philippe Tanguy, sur la position du Rassemblement National sur la question justement de la taxation des bénéfices de Total? Parce qu'entre Marine Le Pen, qui semble assez nettement favorable, et Jordan Bardella qui dit on est déjà le pays au monde le plus taxé, on ne va pas taxer un fleuron de l'industrie française, qui aujourd'hui décide de la ligne?
Non, mais c'est la même ligne, en fait, ce que Jordan a, je vous jure. En plus, ils se sont exprimés ensemble au 1er mai à Mâcon devant 5000 personnes.
Je vais reprendre les mots parce que
j'ai
peut-être simplifié un tout petit peu les propos d'abord de Jordan Bardella. Il faut rien s'interdire, mais je ne crois pas que la priorité dans un pays qui a 46% de prélèvement soit encore une fois d'inventer des taxes. Quand Marine Le Pen dit, elle, lorsqu'une entreprise comme Total fait des bénéfices supplémentaires liés à une crise internationale, il est normal qu'elle puisse contribuer à l'effort national par une taxation exceptionnelle sur les surprofits qu'elle a réalisés. Il y a très clairement deux salles, deux ambiances.
Non, mais je ne crois pas. Mais bon, écoutez, moi, je ne veux pas contredire votre interprétation. Mais ce qu'a dit Jordan Bardella, c'est que la priorité, c'est de baisser les taxes sur le carburant. Ça, c'est la priorité numéro un, et que le débat sur la taxation que mènent les socialistes ne doit pas être un écran de fumée pour ne pas parler de la baisse des taxes TVA et baisse des assises pour baisser, comme on le propose, de au moins 40 centimes.
Sujets sont différents. Baisse des taxes, c'est l'État qui le fait.
Oui, tout à fait. Et la hausse des taxes aussi, c'est l'État qui le fait.
Donc, dans les deux cas, c'est l'État. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, il y aurait une taxe sur Total ou pas?
Oui. Oui. Bien sûr. Oui. Mais c'est
Jordan. Donc c'est Marine Le Pen qui a raison.
Oui, mais c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella, parce qu'il se trouve que dans le programme qu'a présenté Jordan Bardella aux législatives anticipées de 2024, mais aussi le programme économique qui avait été présenté en 2023 par Jordan avec votre serviteur à l'Assemblée nationale, il y avait cette taxe sur les profits exceptionnels. Donc je ne crois pas qu'il y ait une différence sur ce sujet-là, sincèrement. Mais j'entends votre question. Mais vous pour moi, tout ça est très simple.
Vous avez eu le temps de lire le rapport à l'oncle ?
Non, je ne vais pas vous mentir. J'ai bon. Tendance à mentir. J'ai plein de défauts, mais
alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le rapport à l'oncle, c'est le rapport de Charles Alonque, député ciotiste allié au Rassemblement national sur l'audiovisuel public, qui a donné lieu à un peu de bruit ces derniers mois. Ça a duré des semaines. Il fait 70 préconisations aujourd'hui pour réformer du sol au plafond l'audiovisuel public.
J'ai lu les préconisations,
Eh ben, on va les voir ensemble pour ceux qui, comme vous, n'ont pas eu le temps de l'éplucher avec vous, Nargis Hadji. Bonsoir. 400 pages, ce rapport. 69 recommandations. L'objectif, c'est de faire économiser 1 milliard d'euros sur le budget de l'audiovisuel public. On va pas faire les 69. Je vous propose, vous nous prenez les essentiels.
Eh bien, Marc, quatre éléments ont retenu notre attention d'abord. Et d'ailleurs, c'est là toute première recommandation dans Charles Alonque. Dans son rapport, c'est un devoir de neutralité. Le rapporteur souhaite que les salariés de France Télévisions n'affichent pas leur opinion publique sur certains sujets, la politique par exemple, y compris sur les réseaux sociaux. Le deuxième point, le rapport préconise de procéder à des suppressions, celles de France 4 et France Télé, slash principalement destinées aux jeunes, l'une à la télévision, l'autre est une offre digitale. Des suppressions, mais aussi des fusions. Regardez, grâce à cette infographie, eh bien, on voit concrètement France Info regroupée avec France 24. Deux chaînes d'information en continu, mais une spécialisée dans l'information internationale. France 2 avec France 5. L'objectif, créer une grande chaîne généraliste de premier plan, annonce à terme 200 millions d'euros d'économies. Et les fusions des antennes régionales de France 3 avec le réseau Radio ici.
Ça, c'est pour les regroupements ou les fusions entre les chaînes. Le rapport Alonque s'attaque aussi aux programmes. Là, c'est assez net.
Oui, les jeux télé, par exemple, perdraient beaucoup d'argent. On pense à mots de passe, n'oubliez pas les paroles. Pour les jeux télé, 122 millions d'euros d'économies en réduisant de trois quarts leur budget. 50 millions d'euros d'économies par an. Pour le sport, France Télévisions, qui, on le rappelle, diffuse les Jeux Olympiques, Paralympiques, le Tour de France ou encore Roland Garros.
Et puis, il y a également la question des nominations des dirigeants de France Télévisions et de Radio France.
Oui, que ce soit le président de la République qui nomme les dirigeants de l'audiovisuel public après un avis favorable des commissions parlementaires et après avis conforme de l'ARCOM. Alors aujourd'hui, j'ai regardé, la règle est claire. Les présidents, présidentes de France Télé et Radio France sont nommés par l'ARCOM.
Merci beaucoup, Nargis. Qu'est-ce que vous reprenez là-dedans, Jean-Philippe Tanguy, si vous arrivez au pouvoir ?
Bah écoutez, c'est intéressant les propositions sur la nomination de la direction. Mais enfin, nous, on est pour la privatisation.
Ah bon ? Attendez, il y a cinq minutes, vous nous avez dit que le fait que le président de la République puisse nommer l'un de ses proches à la tête de la Banque de France était un problème. Et le fait que le prochain président puisse éventuellement nommer la patronne ou le patron de France Télévisions, ça ne serait pas.
Non, mais parce que je crois que Charles Alonque propose que l'Assemblée nationale ratifie cette nomination, comme on va le faire pour la Banque de France. Donc moi, le fait que l'Assemblée nationale ratifie, bon, à titre personnel, je préférais que ce soit dans l'autre sens. C'est-à-dire que je préférais que l'Assemblée nationale doive soutenir aux deux tiers mais pour toutes les nominations du président, plutôt que bloquer aux deux tiers, parce que bloquer aux deux tiers, c'est très difficile de bloquer aux deux tiers. Donc je trouve que c'est un peu une fausse promesse qu'on avait fait aux Français avec Nicolas Sarkozy à l'époque. Mais de toute façon, on est plutôt pour, enfin, n'est pas plutôt, le Rassemblement national est pour privatiser le service public et notamment pour éviter ce que vous venez de dire, le fait que le président nomme à la tête des médias des gens qui pourraient être proches de lui, et puis avec une Assemblée nationale
privatisée,
qui souvent...
pour être bien précis, oui. Jean-Philippe Tanguy, tout le service public.
Oui, tout, sauf Arte.
Sauf Arte.
Pourquoi ? Parce que c'est un traité avec les Allemands et qu'on peut pas le faire.
Mais tout le reste, Radio France, France Télévisions, vous vendez tout.
Oui, on considère qu'on n'a pas, que l'État n'a plus à posséder de médias et que, en fait, quand vous avez la tentation, et que vous possédez les médias avec un gouvernement, la tentation de pouvoir l'influencer, il cède à la tentation.
Ouais. Vous êtes sûr qu'il y aura des acheteurs ?
Bon, moi je crois, parce qu'il
se trouve... Et vous êtes sûr que c'est rentable ?
Il se trouve que le service public a de bonnes audiences. Hein. Ouais. France Inter, je crois, est encore la première radio. France 2 a régulièrement des audiences très honnêtes, comme France 3. Donc je pense qu'il y a un public. Et donc s'il y a un public, il peut y avoir des acheteurs. Non, le vrai argument, parce que c'est marrant, moi j'essaie d'être honnête dans ma réflexion, c'est que vous savez que le marché de la publicité pour la télévision et la radio est extrêmement contraint.
Et que le patron de TF1, par exemple, dit que ce serait scandaleux de privatiser parce qu'il n'y a pas assez de pubs pour tout le monde.
Il n'y a pas que le patron de TF1, mais c'est vrai que quand la gauche nous accuse de faire le jeu des grands tycoons, des grands possesseurs de la presse et des médias...
Vous voulez dire que le RN est encore capable de s'acheter avec des patrons ?
Oui, mais, non, mais c'est drôle parce qu'en fait, non, les patrons
de presse...
Mais reconnaissez que les patrons de presse et les patrons des médias ne sont pas pour la privatisation du service public parce qu'ils ont peur que le marché de la pub se réduise. Et d'ailleurs, si Nicolas Sarkozy avait supprimé la pub sur France Télévisions à certains horaires, c'était pas pour la culture, c'était pour faire plaisir à Bouygues.
Est-ce que l'État doit avoir un droit de regard si vous privatisez sur l'acheteur ? Ou est-ce que ça peut être n'importe qui, y compris... un groupe étranger, ou y compris en France, un groupe comme celui de M. Bolloré?
Non, vous savez que d'une part, nous, on est pour le patriotisme économique, donc on ne laisserait pas des médias
français
possédés par des étrangers, évidemment. D'ailleurs, c'est une des enquêtes de Charles Laloncle aussi, c'est qu'il y a un groupe de production qui est soupçonné d'être possédé par des intérêts étrangers. J'ai pas encore lu le rapport pour voir s'il était allé au bout de ses investigations, mais c'était un des sujets de la commission. Et Monsieur Bolloré, aujourd'hui, je pense qu'il pourrait pas l'acheter dans le sens où il y a le droit de la concurrence. Mmh. C'est pas que le Rassemblement National veut ou pas, c'est qu'il y a un état de droit, il y a un droit de la concurrence et qu'on peut pas posséder trop de médias. Je pense que là, Monsieur Bolloré, il a déjà quelques médias, qui fait que ce serait compliqué au niveau de la concurrence d'en acheter plus. Mais c'est pas moi de décider, ça, ce serait à l'autorité de la concurrence.
Donc un groupe français, quel qu'il soit,
Avec le respect de la concurrence.
Il faut le respect de la concurrence
et il faut pas qu'il y ait de concentration excessive des médias. Par exemple, l'autorité de la concurrence avait bloqué la fusion entre M6 et TF1 parce qu'il y avait soi-disant un risque de non-concurrence.
Puisqu'on parle d'argent, Jean-Philippe Tanguy, est-ce que le Rassemblement National a trouvé la banque qui financera la campagne de votre candidat à l'Élysée?
Selon les informations dont je dispose aujourd'hui, non, malheureusement, c'est continue les recherches, mais c'est très problématique. Voilà, et quand je vois quand même un certain nombre d'hypocrites, pour pas dire de faux culs, qui sont sur les plateaux, notamment les macronistes, qui expliquent que oui, c'est un problème, il faudrait la Banque de la Démocratie. Je rappelle que la Banque de la Démocratie...
C'était une idée de François Bayrou.
Non, ça a été voté. Ça a été voté...
À l'initiative de François Bayrou.
Oui, ça a été voté en juillet 2017. Non, même avant. Oui. Ça avait été voté en juillet 2017. Et M. Macron et son gouvernement n'ont jamais pris les décrets d'application de la loi.
Elles vous disent quoi aujourd'hui?
Ah, je ne sais pas. J'ai pas l'information. Je ne sais pas ce que disent les banques. Mmh. Mais j'ai entendu un représentant du secteur bancaire, je crois du Crédit Mutuel, mais qui parlait pour le secteur bancaire en général.
Monsieur Ball.
Monsieur Ball sur RTL expliquait des excuses fumeuses, puisqu'il disait qu'il avait peur qu'on fasse pas 5%. Bon, je pense qu'aujourd'hui, tout est possible.
Il n'a pas dit exactement ça.
Et
il a dit que pour certains partis, ça pouvait être un problème, parce que le PS et les Républicains. À la dernière présidentielle, n'avait pas fait les 5%, oui. N'avait pas donc pu être remboursé. Mais
vous avez
je
raison.
Crois pas qu'il l'ait dit sur le RN.
Dans cet ordre-là, il a d'abord dit qu'on pouvait ne pas le faire, et quand votre collègue Thomas Soto lui a dit quand même que le RN allait faire plus de 5%, il a dit que des grands partis, comme le PS et LR, avaient pu s'effondrer aux élections, et dans un deuxième temps, il a dit oui, mais c'est aussi le risque que les comptes soient non validés. Mmh. Je rappelle que les comptes du Rassemblement National, quoi qu'on pense de nous, ont toujours été validés à toutes les élections.
Jean-Philippe Tanguy, je voudrais vous montrer une image que vous avez peut-être déjà vue avant d'arriver sur ce plateau. C'était hier soir en Arménie, où Emmanuel Macron effectue en ce moment une visite. Le chef de l'État a poussé la chansonnette au micro. On regarde.
Dans les cafés voisins.
Ça vous fait sourire?
Écoutez, je vais pas tout critiquer pour critiquer, mais enfin, c'est un peu indécent. Enfin, je pense qu'on n'attend pas du président de la République qu'il se mette en scène. Bon, l'Arménie est un pays meurtri. Je crois que c'est pas l'image aujourd'hui qui correspond à ce qu'a subi notre peuple ami arménien. Mais enfin, écoutez,
je précise que le premier ministre arménien était lui-même à la batterie pour accompagner Emmanuel Macron lors de ce.
Non, mais une fois plus, je dis pas critiquer pour critiquer, mais je crois pas que ces talents chanteurs justifient cette prestation. Mais bon, on peut pas tout le temps râler.
On peut pas tout le temps râler. Merci beaucoup, Jean-Philippe Tanguy. Dans un instant, vous restez bien sûr avec nous sur BFM TV. La suite, c'est le 20h. Julie Hamet, la situation à Hormuz, en Iran, aux Émirats Arabes Unis. Toutes nos équipes sur place.